Swing Time 2023. Swing Time, une émission du Hot Club de Limoges, et aujourd'hui c'est la deuxième émission consacrée aux rencontres improbables, avec à nouveau nos deux présentateurs vedettes, Claude-Alain Christophe, président d'honneur du Hot Club de Limoges, s'il vous plaît. Jacques Canero, qui nous vient de Paris pour nous commenter ces émissions sensationnelles. C'est la deuxième, messieurs, après on attendra la troisième, mais commencez la deuxième émission dès maintenant, à vous.
Ah, très bien. Alors, nous reprenons cette semaine la suite de notre programme, en effet, consacré à des disques mettant en présence des musiciens qui se sont peut-être croisés lors de tournées, de concerts, de festivals, mais n'ont jamais eu l'opportunité de se rencontrer dans un studio d'enregistrement. Comme la semaine dernière, Jacques Canero et moi avons sélectionné des sessions exclusivement enregistrées sur le sol américain.
Merci Claude-Alain, que je ne présente pas tant il est connu des amateurs limougeaux et des auditeurs de Swing FM. Le trompettiste et chanteur Oran Page, surnommé Hot Lips, c'est-à-dire lèvres brûlantes, lèvres de feu, est parfois oublié dans la liste des plus grands en raison de sa disparition prématurée. Particulièrement doué pour le blues, il joua dans divers orchestres, notamment celui de Count Basie, mais il ne fit jamais de disque avec lui. Et il fallut attendre le légendaire concert From Spirituals to Swing, organisé par le critique John Hammond au Carnegie Hall de New York en décembre 1938, pour trouver Hot Lips Page enregistré pour la première et dernière fois avec l'orchestre de son ancien chef. Voici le trompettiste dans une improvisation sur le blues classique de 12 mesures. Il joue ici en puissance 8 chorus, plein de fougue, de notes infléchies, de répétitions véhémentes, soutenues vers la fin par des riffs d'ensemble. Ce long solo est seulement interrompu par deux excellents chorus de saxo ténor du Herschel Evans. La rythmique, outre Count Basie, comprend bien sûr Freddie Green guitare, Walter Page basse, Joe Jones batterie. Ce disque exaltant a été naturellement titré Blues for Lips.
Thank you.
18 janvier 1944 fut enregistré au Metropolitan Opera de New York un concert qui réunissait les vainqueurs du classement des musiciens établi par la revue Esquire. Se trouvaient donc réunis quelques-uns des plus grands jazzmen qui n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer en studio. C'est ainsi que nous allons entendre deux maîtres de leur instrument réunis ce jour-là, le saxo-ténor Coleman Hawkins et le pianiste Art Tatum, qui nous régale d'une interprétation de My Ideal, dans laquelle Hawkins fait preuve d'un lyrisme sans aucune mièvrerie, mais non sans swing, et nous fait admirer une sonorité et un vibrato uniques. En solo, il est suivi comme son ombre par les superbes broderies et contre-chants d'Art Tatum, qui prend aussi un chorus dans lequel il délivre ses habituels traits de virtuosité avec une légèreté et une aisance qui laissent pantois. D'autant que ces traits sont articulés de façon à produire un maximum de swing. Pour brillantes que soient leurs prestations, Hawkins et Tatum font aussi preuve de beaucoup d'émotion dans leur interprétation de cette jolie ballade, My Ideal.
Quel musicien, fut-il célèbre, n'a jamais souhaité enregistrer un jour avec Duke Ellington ? Coleman Hawkins fit partie de ses privilégiés le 18 août 1962 à New York, enregistrant avec lui un unique recueil entier avec un self-portrait qui n'est autre que la reprise d'une ancienne composition de Duke et Billy Strayhorn titrée Grieving. Dans cet autoportrait sur tympan, Hawkins est accompagné par la rythmique ducale de l'époque, Aaron Bell basse, Sam Woodyard batterie, et par quatre Ellingtoniens. Le saxo-ténor, seul soliste, prend deux chorus sur cette ballade de 32 mesures, jouant avec une grande délicatesse et un vibrato poignant sans trop s'éloigner de la mélodie initiale. Il est soutenu principalement dans le second chorus par un background feutré. Dans son accompagnement discret, Duke Ellington fait preuve de sa coutumière élégance. Self-portrait.
Maintenant à Los Angeles en 1946, où sont réunis au sein d'un trio pour une séance unique qui donnera plusieurs interprétations fort réussies, le saxo-ténor Lester Young et Nat King Cole, dont tous les amateurs de jazz savent qu'avant de remporter un grand succès comme chanteur, il fut un brillant pianiste. Le troisième larron de ce trio étant le batteur Buddy Rich, dont c'est peut-être la meilleure prestation enregistrée. Dans « I Found a New Baby », que nous allons écouter, Lester Young se montre très inspiré, puis King Cole déploie dans son solo une énergie qui rappelle celui qui fut un de ses modèles, le grand Earl Hines. Quant à Buddy Rich, il est parfait dans les chorus où il échange avec ses partenaires, notamment avec le jeu de piano très percutant de King Cole. « I found a new baby ». «
Voici un quartet composé de musiciens bien connus, réunis pour une séance de décembre 1943 sous le nom de Lester Young. Le saxo-ténor est ici accompagné par Johnny Guarnieri, son pianiste régulier à l'époque, ainsi que par le bassiste Slam Stewart, mais c'est la seule fois de sa carrière qu'on pourra entendre le saxophoniste avec le batteur Sidney Catlett. Dans cette session, chacun donne le meilleur de soi sur le 32 mesures I Never Knew, pris en tempo rapide. Lester Young, propulsé par la rythmique, développe d'entrée trois chorus inspirés suivis par un brillant solo de Johnny Guarnieri. L'interprétation se prolonge alors par deux chorus au swing tout aussi réjouissant, basse à l'archer de Slam Stewart pendant 16 mesures, avant que Big Sid Catlett passe au premier plan et s'impose magistralement jusqu'à la fin avec un jeu de ballet crépitant digne d'un danseur en soft shoes. I never knew. Thank you.
Dans l'abondante discographie du pianiste Art Tatum, prédominent les enregistrements en solo ou avec son trio régulier. Le disque avec le ténor Coleman Hawkins que nous avons écouté tout à l'heure provenait d'une rencontre exceptionnelle lors d'un concert. C'est seulement 2 ans avant le décès d'Art Tatum, en 1956 à 47 ans, que Norman Granz envisagea de l'enregistrer en studio auprès de grands noms de l'histoire du jazz. Il choisit Benny Carter, Lionel Hampton, Roy Eldridge, puis Joe Jones. C'est avec ce dernier que nous retrouvons en janvier 1956 ces deux géants du jazz au sein d'un trio qui comprenait également le bassiste Brad Callender. Nous les écouterons jouer un blues, ce qui n'était pas fréquent dans le répertoire d'Art Tatum. On sera d'autant plus étonné dans ce trio blues de retrouver le fumet particulier de quelques grands spécialistes du genre dans le jeu de Tatum. Son ton est d'abord intime avant de s'élever dans les derniers chorus. Si Joe Jones pouvait être un brillant soliste, à l'accompagnement, il a toujours été apprécié pour son jeu swingant, tout en souplesse, qui n'empiète jamais sur celui du soliste. Ici, il utilise uniquement les ballets, d'abord sur la caisse claire, puis aussi sur la cymbale Charleston, mais toujours avec son habituelle discrétion. Trio blues. Thank you.
En septembre 1956, soit 8 mois après le trio blues que nous venons d'entendre, le pianiste Art Tatum fut à nouveau convié par Norman Granz à participer à une séance d'enregistrement inédite, cette fois avec le saxo-ténor Ben Webster. Ce sera l'ultime session du pianiste qui devait décéder subitement 2 mois plus tard, à la veille de sa première venue en France. C'est donc avec émotion que nous écouterons la célèbre ballade de Cole Porter, Night and Day, déjà plusieurs fois enregistrée par le pianiste. Sur ce thème de 64 mesures en tempo moyen vif, Tatum joue les premiers et quatrièmes chorus avec son swing prodigieux, son exceptionnelle virtuosité, son attaque incisive et ses chapelets de notes en cascade qui faisaient dire à Ray Charles dans le film de Clint Eastwood Piano Blues qu'il faisait sonner son piano comme s'ils étaient deux à jouer. Ben Webster prend les autres chorus avec son habituelle sonorité veloutée sur ce type de pièce, il brode sans trop s'éloigner du thème et swing de façon aisée, détendu, sans recherche de performance ou d'éclat. Les deux accompagnateurs fort discrets sont le bassiste Red Callender et le batteur Bill Douglas. Night and Day. Thank you.
Une autre rencontre exceptionnelle se produisit en 1945 entre deux géants du jazz, le saxo-ténor Don Byas et le pianiste Errol Garner. On va les entendre au sein d'un quartet qui comprenait aussi le bassiste Slam Stewart et le batteur Harold Doc West. Ils jouent sur tempo rapide le célèbre blues qui fut l'indicatif de l'orchestre de Count Basie que Byas venait de quitter, One O'Clock Jump. Le grand ténor était alors à l'apogée de sa carrière et nous fait admirer sa plantureuse sonorité. Errol Garner était lui encore au tout début de la sienne, mais dans les trois chorus qui lui sont alloués au début de l'interprétation, il démontre déjà sa forte personnalité musicale.
Il est pour le moins surprenant que des musiciens aussi célèbres que le pianiste Earl Hines et le trompettiste saxophoniste alto Benny Carter aient eu une seule fois l'opportunité de se rencontrer dans un studio d'enregistrement. Il fallut attendre novembre 1958 pour les trouver conviés à Los Angeles à une session en quartet avec basse, c'est Leroy Weingard, et batterie, c'est Shelly Mann. Nous écouterons sur le classique Sweet Lorraine. Trois chorus sur ce thème de 32 mesures. Sur un tempo paisible, Benny Carter à l'alto expose avec aisance, de façon superbement chantante, sans s'éloigner de la mélodie, étirant et gonflant parfois ses notes articulées à la perfection. Le deuxième chorus offre un contraste saisissant avec un Earl Hines, au jeu d'abord placide, puis soudain empli de broderies intrigantes, usant de longs traits joués en accord avec une impressionnante attaque. Dans le troisième chorus, Benny Carter calme le jeu, il revient au thème qu'il paraphrase avec délicatesse. Sweet Lorraine. Thank you.
Nous avons envisagé cette présentation sur des rencontres improbables, mais revenu en mémoire une réunion du Yacht Club de Limoges chez Jean-Marie Masse, il y a une cinquantaine d'années. Nous avions entendu ce soir-là Benny Carter partageant la vedette avec Johnny Hodges sur un thème habituellement réservé à ce dernier au sein de l'orchestre de Duke Ellington, Prelude to a Kiss. Petite entorse à notre règle, ce n'est pas en studio, mais sur scène à l'Hollywood Bowl le 1er juillet 1967, que se rencontrèrent ces deux grands saxo alto au style si différent. C'est bien sûr devant l'orchestre de Duke Ellington qui joue lui-même une longue introduction au piano dans l'attente de Benny Carter, salué par des applaudissements. Il joue un chorus et demi de ce thème de 32 mesures, alternant des interventions de 8 mesures chacun. Hodges commence dans son style ondoyant et chaleureux, suivi par Benny Carter, plus tranchant et volubile. Prelude to a Kiss.
Thank you.
tous les amateurs de jazz connaissent le guitariste Al Casey, compagnon de Fats Waller pendant près d'une décennie à la guitare acoustique, puis enregistrant la guitare électrique dans la suite de sa carrière comme soliste ou accompagnateur de nombreux musiciens. Il se trouve que personne, avant le cinéaste et producteur Louis Panassier, n'eut l'idée de lui proposer une rencontre exclusive avec un autre guitariste. Ce partenaire inattendu se nomme Billy Butler. Il avait surtout acquis sa réputation à partir des années 1950 au sein du petit orchestre de l'organiste Bill Doggett. On lui doit entre autres la composition du fameux Honky Tonk. Nous avons eu la chance de l'applaudir en France, notamment à Limoges. Voici ce duo d'exception, enregistré à New York en juillet 1974, avec pour seul soutien le souple batteur Jackie Williams. Les deux guitaristes se partagent Three Little Words, jouant et accompagnant en alternance. Pour les distinguer, on remarquera chez Butler une attaque nette et tranchante, des phrases aux notes bien détachées et un jeu parfois en accord. Chez Casey, le jeu est plus paisible, plus aéré, mais tout aussi délicat que celui de son partenaire, les deux musiciens ayant en outre en commun le refus de tout effet facile et optant pour la complémentarité. Après l'exposé en commun, vous entendrez Butler, deux chorus, Casey, deux chorus, à nouveau Butler, deux chorus, dont reprise du thème, Three Little Words.
Intéressé maintenant à une autre rencontre surprenante entre Slim Gaillard, un des musiciens les plus swingants de l'histoire du jazz, avec celui qui a rompu, on peut dire, avec le jazz dansant et populaire en créant le bebop, Charlie Parker. C'est quelques jours après les premiers enregistrements bop fin 45 que Bopper et Jazzman se rencontrèrent. Pour les premiers, outre Parker, on trouve Dizzy Gillespie à la trompette et le pianiste Dodo Marmarosa. Côté jazz, le saxo-ténor Jack McVie, le bassiste Bam Brown, le batteur Zooty Singleton et Slim Gaillard en maître de cérémonie. Sur un blues de 8 mesures intitulé Slim's Jam, d'un ton très paresseux et avec la participation de son compère Bam Brown, Slim Gaillard introduit les trois soufflants, seul soliste de cette courte interprétation. C'est d'abord Jack McVie qui nous délivre un chorus tout en décontraction, puis Parker joue deux chorus que n'aurait pas désavoué son ancien chef Jay McShann. Seul Dizzy introduit quelques tournures bob dans son solo. Par contre, emmené par ses partenaires, Dodo Marmarosa accompagne plutôt à la Garner.
Jam session here. And here comes Zooty in the door with his brushes. And what's he know, Papa? Look at this cat here. Here's a suitcase there. That's scary. Beat on that one.
Open up the door, Richie.
Well, look here. Well, here's Jack McVouty in his tenor.
Yes, indeed.
Well, say, Gaze, how about blowing some, man?
Got the next call.
All right, that's great. Take it. You got it. So fine. Say, you better bring me a double order of Riti Footies with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Well, here's it. Well, look at Charlie Yardboy to ruin
it. Yes, now how's it going, Joe?
Oh, everything is mellow, man. Look at this guy to get his horn with the name.
Yeah, blow I got
some?
My horn with me, man. I want to blow some, too. Yeah. I'm having a little reed trouble.
Haven't got a reed?
Yeah.
Well, McVouty's got a reed. He can trim it down a little. That's great.
Yeah, I'm
well, that's
great.
Solid, then. Well, let's get together and blow. We need flat. Take the next one. You got it.
Okay.
All right.
Thank you. fix it. Say, look here, Papa, how about setting a riff on the next chord? And we'll take him on out there because he's got here. He got to go and make another gig there. Let's cut. I got to get up early in the morning myself. So let's riff on the next chord and cut on out.
À présent, un petit tour du côté du Missouri. La ville de Kansas City fut dans les décennies 30 et 40 une pépinière de talents et vit s'épanouir nombre de jazzmen importants dans l'histoire du jazz. Count Basie fut le plus connu d'entre eux, mais on en compta bien d'autres, tels le pianiste et chef d'orchestre Jay McShann. C'est ce dernier que nous allons entendre en 1972 avec deux de ses accompagnateurs habituels, le bassiste Jane Ramey et le batteur Gus Johnson. Pour cette session, furent aussi conviés deux saxo-ténors de la tradition Kansas City, mais enregistrant ici ensemble pour la seule fois de leur carrière, Buddy Tate et Julian Dash. Leur style est sensiblement différent. Premier ténor à jouer, Julian Dash, s'exprime en phrases tantôt amples, tantôt denses et serrées, parfois avec des inflexions, tandis que Buddy Tate opte pour des phrases mobiles, chantantes, capricieuses, voire audacieuses, dans l'aigu notamment. Le thème, Doggin' Around, est emprunté au répertoire de Count Basie. D'ailleurs, dans le solo de piano de Jane McShann, on repérera facilement les emprunts au style de Basie en façon d'amical hommage. Passé le chorus d'exposition, Julian Dash prend 3 chorus, Jane McShann 3 chorus, Buddy Tate 3 chorus, la suite et la fin étant réservées aux bassistes et aux ensembles. Doggin' Around. Thank you.
Dans les années 1930, l'orchestre de Duke Ellington avait pour chanteuse l'excellente Ivy Anderson, qui enregistrait aussi avec un groupe intitulé The Gotham Stompers, lequel, outre quelques Ellingtoniens, comprenait des musiciens venus d'autres formations. C'est ainsi que dans l'interprétation que nous allons entendre, My Honey's Loving Arms, le grand trompette Cootie Williams, accompagné par Barney Bigard, Johnny Hodges et Harry Carney, va se retrouver accompagné par la section rythmique du chef d'orchestre et batteur Chick Webb, qui a aussi amené son trombone Sandy Williams et a confié l'arrangement à Wayman Carver. Tout ce beau monde va nous régaler, mais je vous recommande tout particulièrement la pulsation unique et très dansante de la batterie de Chick Webb tout au long du morceau et ses fulgurantes interventions dans le final. My Honey's Loving Arms.
A place to nestle when I'm lonely. A cozy Morris chair. Oh, what a happy pair. One caress, happiness seems to bless my little honey. I love you more each day. When years have passed away, you'll find my love belongs to you only. Cause 'cause when the world seems wrong, I know that I belong right in my honey's loving
C'est au Savoy de Harlem que débutèrent avant la Seconde Guerre mondiale les batailles de grands orchestres. L'une des joutes les plus célèbres fut celle qui opposa le dimanche 16 janvier 1938 la grande formation de Chick Webb avec Ella Fitzgerald et celle de Count Basie avec Billie Holiday. Selon certains témoins, ce fut Chick Webb qui l'emporta, d'autres affirmant que les orchestres furent si exceptionnels qu'on renonça à proclamer un vainqueur. Cette tradition fut ravivée en 1961 par un disque mémorable sous la forme d'une rencontre tout amicale entre la grande formation de Duke Ellington et celle de Count Basie. Voici donc un extrait du recueil First Time, Duke Ellington-Count Basie, enregistré à New York le 6 juillet 1961 sous le titre Battle Royale, si évocateur de la tradition du Savoy. Dans cette composition d'Ellington, d'un 32 mesures avec pont en tempo vif, nous vous laisserons identifier les intervenants, tous bien connus, mais il vaut mieux ici se laisser séduire par le climat explosif de ce disque unique. Nous nous contenterons d'indiquer que côté batterie, Sam Woodyard n'est rejoint par Sonny Payne que pour le duel final. Battle Royale. Thank you.
Et c'est avec cette sensationnelle interprétation que s'achèvera notre deuxième émission consacrée à des rencontres improbables. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un ultime volet réservé à des enregistrements tout aussi uniques, mais effectués en Europe.
C'était Swing Time 2023. Et c'était encore une émission tout spécialement cuisinée aux petits oignons par Claude Alain Christophe et Jacques Canero. On les attend la semaine prochaine. Ils ont promis de venir la semaine prochaine, donc je ne vais pas leur demander de confirmer. Ils ont dit qu'ils venaient. On vous remercie pour cette deuxième émission et on vous attend dans une semaine dans le même local pour vous adresser au monde entier, parce qu'on s'adresse au monde entier dans cette radio. Merci messieurs, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.